Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
J'ai vraiment fait ce choix de ce changement de vie pour répondre à une passion et pour répondre à une envie vraiment très profonde. Je l'ai pas fait pour gagner beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Il y aura une grosse différence entre le salaire que j'étais capable d'avoir en bossant dans le digital et le salaire que j'aurai demain. Je l'ai fait parce que j'étais plus alignée avec moi-même et que j'avais cette passion qui était là depuis longtemps, cette envie qui était là depuis longtemps, et il fallait que j'y réponde. J'avais déjà pas de doute sur le fait que j'avais eu raison de changer de voie professionnelle, mais là je me sens vraiment complètement à ma place.
Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi, en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi, en chemin. Quel plaisir de retrouver Aline pour notre 3e rendez-vous de En chemin. Pour rappel, Aline a quitté il y a 1 an une carrière toute tracée dans le digital où elle avait un très bon poste pour ouvrir son salon de thé librairie. Comme vous pouvez l'imaginer, la période actuelle a imposé à Aline et son associé d'imaginer un plan B. Si vous n'avez pas encore écouté nos 2 premiers rendez-vous, je vous invite vivement à le faire et donc à mettre pause. J'ouvre une petite parenthèse. Le podcast vous plaît? Parlez-en autour de vous et abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela m'aidera énormément. Allez, je ne vous fais pas plus attendre. À tout de suite dans l'univers d'Aline Bunel. Bonjour Aline.
Bonjour Charlotte.
La dernière fois qu'on s'est parlé, tu n'avais pas lancé ton salon de thé parce que en plein confinement, c'est pas idéal pour trouver un lieu et lancer ce type de business. Donc tu avais lancé des brunchs, donc ton plan B. Oui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'on a lancé le plan B. Donc, on continue la livraison à domicile. Donc, on livre des brunchs, on livre aussi des livres d'occasion, qui est la deuxième partie de notre concept. Et on livre ce qu'on appelle des gourmandises, donc des brioches, des gâteaux, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'on fait ça. Et c'est une super expérience. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose dans lequel on s'éclate. Donc, c'est une très bonne chose.
Ouais. Et du coup, par rapport au salon de thé, vous en êtes où? Parce que quand on s'était quitté la dernière fois, tu me disais que dans tes prochains défis, c'était de rechercher un local. Sauf que, bon, entre-temps, on a été reconfiné. Chose qu'on n'imaginait pas forcément à ce moment-là. Comment ça se passe?
Pour l'instant, on est au même point qu'il y a 3 mois, parce qu'effectivement, il y a 3 mois, on s'imaginait que fin d'année, on serait débarrassé du Covid, mais en tout cas, ça irait un petit peu mieux. On a refait un confinement, donc au final, on est revenu comme au mois d'octobre, quoi. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on n'a pas lancé les recherches de locaux parce que la situation est compliquée. Les restaurants n'ont toujours pas rouvert. Et sans une réouverture des restaurants, c'est très compliqué de se projeter dans un local physique. Même si c'est quelque chose qu'on veut, on reste convaincu que dans tous les cas, on ouvrira quelque chose puisque c'est cette aventure de livraison à domicile nous a donné le goût de faire notre métier et nous laisse un petit goût de trop peu. On a envie, on a envie d'aller plus loin, on a envie de faire autre chose, on a envie de concrétiser ce plan A. Ouais. Mais voilà, la vie nous apprend que finalement, il faut savoir être un petit peu plus flexible. Et donc pour le moment, on n'a pas encore repris la recherche de local. Donc on espère cette fois-ci pouvoir le faire au printemps. Ouais. Voilà, sans l'assurance que ce soit possible, mais étant donné qu'on continue et qu'on a quand même une activité à côté, au final on arrive à s'épanouir avec cette activité à côté, donc pour le moment c'est très bien.
Ouais, tu nous disais que c'était un peu une espèce de période d'essai, grandeur nature avec Sergeline.
Exactement.
Et donc cette période d'essai, bon, finalement, ça devient un peu un CDI finalement. comment ça se passe du coup cette concrétisation de tout ça?
Ben, je t'avoue qu'en fait, cette période d'essai, on l'imaginait pas. On imaginait que, l'année dernière, on aurait un local, on ouvrirait et puis voilà, on commencerait tout de zéro. Et je t'avoue que cette phase d'essai, ce POC ou ce MVP, comme tu veux l'appeler, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui auraient pu nous arriver.
Ouais.
Vraiment. Parce que ça nous laisse une latitude assez exceptionnelle de pouvoir tester plein de choses et surtout de pouvoir concrétiser. Ce qui est une chose qui, pour nous, était extrêmement difficile quand on a commencé à réfléchir au salon de thé, c'est de faire le fameux business plan, donc le Saint Graal de tous les entrepreneurs, où il faut que tu expliques une vision de ton projet sur 5 ans, que tu détailles ton chiffre d'affaires, que tu détailles tes coûts, que tu dois compter jusqu'à la petite cuillère quand tu n'as pas de local.
Si je me rappelle, tu nous avais parlé déjà des petites cuillères dans le premier épisode.
C'est quelque chose qui m'avait choqué quand notre conseiller nous avait dit qu'il fallait imaginer le nombre de tasses, le nombre de cadres, le nombre de chaises, etc. Et moi, j'étais là, mais j'ai pas de local, comment je fais ça, comment j'imagine, il fallait que je pense aux factures d'électricité alors que je n'ai pas de local, enfin bref, des choses, il faut faire des choses très très concrètes sur des hypothèses, et en fait il faut faire plein d'hypothèses sur plein d'hypothèses, et pour moi c'est tellement pas concret que j'avais beaucoup de mal en tout cas à me projeter dans ce business plan. En plus de ça, il fallait une vision assez précise, assez fine sur 5 ans, sachant que pour moi, c'est une reconversion professionnelle complète. Pour Sergeline, c'est un lancement en indépendante. Enfin, c'est très compliqué à faire. Et au-delà de ça, parce qu'on aime bien se rajouter des challenges, Sergeline et moi, on ne se connaissait pas avant de monter ce projet-là. Donc, il fallait, en plus du projet, qu'on monte notre relation, parce que ça fait quand même... Enfin, c'est 50% du job, la relation qu'on a dans ce projet. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Et je t'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise à faire des hypothèses sur des hypothèses sur des hypothèses pour arriver à quelque chose qui serait sûrement très loin de la réalité, étant donné que on n'avait même pas les bases. Enfin, voilà, j'avais l'impression de devoir jouer à Madame Irma, ce qui était franchement compliqué. Et ce qui est génial au final avec cette période d'essai, enfin avec ce POC, c'est que on arrive à valider tellement d'hypothèses. Il y avait plein de choses qu'on avait imaginées, comme notre cible, qui était notre client idéal, où est-ce qu'il vivait, le panier moyen qu'on aurait, nos best-sellers en termes de vente, la ventilation de notre chiffre d'affaires entre la partie salon de thé, la partie livre. Toutes ces choses-là, au final, on a pu les on peut les valider aujourd'hui après 7 mois d'aventure. Ouais. Alors, ça ne sera pas exactement pareil, puisque là, on fait de la vente à distance, on fait de la livraison à domicile. Donc, c'est un petit peu différent que de vendre sur place, notamment sur la partie livre où il y a une vraie différence de consommation entre des livres que tu vas acheter dans un endroit type une bouquinerie ou une librairie versus en ligne. Les gens n'y vont pas avec les mêmes objectifs. Mais on est quand même très, très proche du terrain. Et ça permet de valider des millions de choses. Et c'est génial parce que du coup, quand on va se remettre dans notre business plan, on va avoir toute une étape qui sera déjà validée. Et quand on ira montrer ce dossier-là à un organisme bancaire, on va se baser sur quelque chose qui est concret, qui est réel, avec des chiffres à l'appui, avec un chiffre d'affaires à l'appui. Et ça, c'est hyper confortable. C'est vraiment hyper, hyper confortable. Et une autre chose que cette période d'essai nous apprend, c'est qu'on peut expérimenter et on peut se tromper. Et ça, c'est vraiment, vraiment libérateur. Parce qu'on sait que dans tous les cas, quand on aura notre salon de thé, enfin, on est humaine, on fera des erreurs. Et l'erreur fait partie de l'expérience, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Seulement, il y a une vraie, en tout cas pour moi, il y a une vraie peur de se tromper, notamment au vu des enjeux et des impacts.
Des enjeux quoi, des enjeux financiers?
des enjeux financiers principalement, parce que quand on se lance dans un projet de salon de thé, grosso modo, notre projet de salon de thé, c'est à peu près 100 000 euros. Donc, sur ces 100 000 euros-là, on va devoir, nous, apporter de notre poche entre 20 et 30 % et la banque va financer le reste. Ouais. Ce qui reste quand même des sommes qui sont assez importantes. Et un engagement de notre part à Serge Denis et moi qui est quand même assez, assez conséquent. Et ce qui fait que dans cette optique-là, quand il y a un impact financier fort, la peur de se tromper est vraiment importante. Mmh. Parce que même si on a envie d'expérimenter, on a envie de tester, on a envie de faire ça dans des conditions quand même assez restreintes pour que l'impact financier soit moindre. Mmh. Et là, au final, avec cette étape de test, de POC, on peut prendre ce risque parce que c'est un risque qui est complètement calculé parce que l'impact, enfin notre engagement financier est beaucoup moins important. On n'a pas de loyer, on n'a pas de facture d'eau, de facture d'électricité. On s'est équipé du minimum, mais c'est des choses si demain ça marche pas qu'on peut revendre et si ça marche c'est des choses qu'on peut garder. En fait, on a tout fait pour que le POC soit quelque chose qui, si ça marche pas, ne nous coûte pas énormément de budget, ouais. Et si ça marche, puisse être réutilisé. Et ça, c'est hyper libérateur. Parce que du coup, on peut se permettre de tester absolument tout ce qu'on veut. Et on peut aussi se permettre d'avoir des projets et de ne pas les lancer. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et ça nous permet aussi de travailler ensemble, de vivre ensemble, de construire notre relation ensemble, de s'organiser ensemble, de communiquer. Tout ça, ça nous permet de vivre plein de petites étapes avec, d'un point de vue émotionnel, quelque chose de beaucoup moins fort que si c'était le salon de thé. Et du coup, d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à communiquer, parce que c'est hyper important dans un projet. Et c'est pas toujours évident. Et tout ça, au final, on est en train de se construire une expérience qui va faire que quand on va lancer notre salon de thé, on aura des bases très très solides. On aura déjà de l'expérience. Moi, j'aurais eu un peu d'expérience dans le domaine. Alors c'est pareil, c'est évidemment pas du tout pareil parce que j'aurais pas l'expérience de la salle, mais j'aurais l'expérience de la cuisine, de l'organisation, de la mise en place, de ce qu'on fait pour sortir telle et telle chose. Et ça, c'est hyper important. Et ça aide aussi beaucoup à pour notre confiance en nous. Que ce soit notre confiance personnelle ou la confiance en l'autre, c'est hyper important. Donc au final, ces 7 mois sont hyper hyper riches et je pense vraiment que c'est l'une des meilleures choses qui aurait pu nous arriver.
Ouais.
Parce que ça va faire en sorte que notre projet ne pourra être qu'un succès demain parce qu'on aura déjà eu beaucoup d'expérience ensemble.
Ouais. Et quand tu dis que vous avez testé des choses qui ont été des échecs, mais finalement qu'on apprend grâce à ces échecs, c'était quoi ces types de choses ?
C'est principalement de l'organisation. C'est parce qu'il y a au final dans la livraison à domicile, il y a beaucoup. Il faut être très organisé pour pouvoir sortir les choses soit le matin même, soit la veille. Il faut les mettre en packaging et ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est juste de l'organisation. C'est bien timer les choses pour qu'on parte à l'heure. Ça nous arrive très souvent de pas toujours être au point, pas toujours être à l'heure. Il faut tester aussi les packagings qu'on achète, ça tient pas, ok, comment on fait, il faut réagir tout de suite parce que on l'a pas testé avant. Ça peut être des recettes, on s'est dit ouais, ok, sur le papier c'est très bien, mais quand il faut en sortir 40, ça marche moins bien. Du coup, comment on fait? Enfin voilà. Après, ça peut être aussi plein de choses. Tu vois, avec les livres, par exemple, les livres, on en a vendu beaucoup au mois de novembre, et puis au mois de décembre, j'avais fait toute une opération de communication pour faire des sélections de livres en fonction de certaines thématiques, un Noël fantastique, un Noël polar, un Noël, etc. Et en décembre, ça n'a pas du tout marché. Voilà. Et puis c'est plein de choses qu'on apprend comme ça. Donc on essaye d'en tirer des enseignements. Sur les livres, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en plus la période de Noël est très chargée en termes de communication, très chargée en termes de beaucoup de choses. Du coup, on apprend plein de choses comme ça. Et c'est vraiment vraiment génial de pouvoir expérimenter tout ça.
Et du coup, les livres, c'est quelque chose que vous avez lancé, donc après le lancement des brunchs.
Oui.
Donc, quelqu'un qui commande un brunch peut se faire donc livrer des livres avec sa commande, c'est ça?
Tout à fait. Ouais. Il y a toute une partie en fait de livres qu'on avait déjà récupérés en don, parce qu'on fonctionne principalement avec des dons de livres pour la partie bouquinerie. Et effectivement, on les a du coup, on les a tous référencés, mis en ligne. Ils sont disponibles sur notre site en vente. Donc effectivement, en même temps, aujourd'hui, on livre que le week-end. On s'était posé la question de passer sur la semaine. Et c'est pareil en termes d'organisation, c'est aussi assez lourd. Voilà, ça fait partie des choses qu'on avait très envie de faire pendant le deuxième confinement, qu'on a finalement repoussé parce qu'on a été absolument débordé de demandes pendant le deuxième confinement pour la partie brunch. Ouais. Et Sergeline n'a que deux bras. Et moi, même si je suis toujours très ravie de donner un coup de main en cuisine, je suis pas de la formation. Donc je compte pour 0,5, ouais. Ce qui fait pas beaucoup. Et voilà, on s'est aussi rendu compte que tout le travail que Sergeline faisait dans les brunchs, ça prenait énormément de temps sur la semaine et qu'il fallait qu'on s'organise autrement si on voulait commencer à faire tous les jours, ou en tout cas commencer à livrer. On voulait faire tout ce qui était box de goûter, allier livres et pâtisseries pour la semaine. Mais voilà, c'est une autre organisation. Et c'est OK de se dire qu'on avait ce projet-là, mais qu'on n'était pas en mesure de le sortir à une période de forte activité et qu'on va le décaler. Et on verra si on le lance pendant cette période-là ou pas, ou si les brunchs sont satisfaits. Donc voilà, c'est ça aussi qui est très cool. Mais du coup, oui, sur la partie livre, au final, on l'a lancé très peu de temps après les brunchs. Ouais. Voilà, il faut aussi l'animer, il faut le lier au brunch. C'est ça aussi un des challenges du concept, c'est de pouvoir lier les deux activités, même s'il y en a une qui évidemment génère 90% de notre chiffre d'affaires et l'autre 5-10%.
Ouais.
Il faut qu'on arrive à communiquer sur les deux, à lier les deux, pour que ce soit cohérent.
Ouais.
Vas-y. Disons, on a lancé un projet en octobre qui permet aussi de lier ça, où en fait on fait des collaborations avec des auteurs lillois qui en fait rédigent une courte nouvelle qu'on glisse dans toutes les commandes de nos clients, et du coup sur les réseaux sociaux on promeut aussi l'auteur et sa nouvelle, et donc ça permet aussi vraiment de lier le concept de Salon de thé littéraire.
Super. Et quand voilà. La dernière fois qu'on s'était parlé, bon, tu me disais c'est l'été, donc les brunchs ça marche bien. Bon, j'imagine qu'en effet le fait que les restaurants soient toujours fermés, ça joue dans votre sens.
Ça joue tout à fait. Ouais, et le confinement, au fil du deuxième confinement, nous a fait exploser, a fait vraiment exploser nos ventes. Après, on a aussi beaucoup de chance. Moi, j'ai surtout de la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est très talentueuse, parce qu'on a de très, très, très bons retours sur nos brunchs. Les gens sont enchantés, et dans notre clientèle, on a déjà beaucoup de fidèles. C'est génial juste de pouvoir discuter avec ces gens-là et de les voir tous les mois fidèles avec leur brunch et avoir toujours des petits messages trop sympas. Enfin, j'avais déjà pas de doute sur le fait que j'avais eu raison de changer de voie professionnelle, mais là je me sens vraiment complètement à ma place. Voilà, juste de pouvoir échanger avec ses clients, de créer un lien de proximité, de leur raconter nos vies, etc. C'est des gens qui s'intéressent en plus à ce qu'on fait, qui sont ravis de nous suivre depuis le début, qui à chaque fois nous envoient plein de messages d'encouragement. Donc là je me sens vraiment complètement 100% à ma place, et vraiment ravie de cette vie professionnelle. Enfin, c'est génial.
Ah, c'est super.
Et donc du coup effectivement le confinement, donc le fait qu'on avait déjà une base de clients très très fidèles qui étaient tout à fait prêts à partager leur avis, etc., a fait que effet boule de neige, et le bouche à oreille a vraiment commencé à bien marcher. Et au mois de novembre décembre on a vraiment explosé nos ventes. En plus, au mois de décembre on a fait des bûches qui sont très très bien parties. On a pris 15 jours de vacances, on va dire 3 week-ends, pour nous c'était 15 jours, mais du coup 3 week-ends où on n'a pas fait de brunch. On est revenu au mois de janvier, et au mois de janvier l'engouement était toujours aussi fort. Ah, et
C'était une de vos craintes, du coup, avant de partir en vacances, de se dire, est-ce qu'on retrouvera nos clients après?
Bah, pour moi, c'est toujours une crainte. C'est toujours, tu vois, il y a toujours au fond de moi, ce petit de « et si ce mois-ci, ça marche pas ?» Parce que on change la carte de nos brunchs tous les mois. Donc, pendant un mois, on anime une carte. On fait la nouvelle, on anime la suivante. Et après, les cartes, enfin tout ça, c'est très subjectif. C'est comme quand tu vas au resto, tu regardes la carte. Si la carte te plaît, tu y vas. Si la carte te plaît pas, tu y vas pas. Ouais. Mais c'est complètement subjectif. C'est en fonction de tes goûts. Est-ce que t'aimes ou t'aimes pas telle ou telle chose? Enfin, c'est vraiment complètement subjectif. Ouais. Donc, au final, pour moi, même si j'ai évidemment complètement confiance en Sergeline et je sais que la réalisation va être top et que le goût sera là, ça n'empêche que c'est quand même une question de goût et une question de... C'est complètement subjectif. Donc, tous les mois, quand Sergine sort sa carte qu'elle a passé, où elle a passé des heures à tester, on a testé ensemble, je me dis, OK, est-ce que les gens vont être une nouvelle fois au rendez-vous? Ouais. J'ai toujours cette petite appréhension-là. Et c'est vrai qu'après trois week-ends de fermeture, en plus, c'est pas une période où on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux parce que période de Noël et de fête, on était chacune dans nos familles, on avait besoin de se
ressourcer. Un peu de repos aussi, ouais.
Voilà, un petit peu de repos et après voilà, le fait est que les réseaux sociaux pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est toujours un peu difficile à animer. Enfin, je suis pas dans 100% dans ma zone de confort, donc c'est pas hyper naturel. Donc je m'exprime pas de façon hyper naturelle sur les réseaux. Étant donné que ça demande toujours un petit effort, voilà, c'est pas quelque chose que je voulais forcément, qu'on voulait forcément animer pendant les vacances. Et on sait que voilà, les tendances changent vite, donc on s'est dit bah voilà, c'est au bout de deux semaines, trois week-ends, on n'a pas beaucoup communiqué, on revient avec un nouveau menu, qu'est-ce que ça va donner? En plus à ce moment-là, on ne savait pas encore, il était toujours prévu que les restos rouvrent le 20 janvier. Ouais. On n'avait pas encore eu de communication qui disait que ça allait être retardé, donc ça faisait beaucoup de choses qui disaient bon, comment ça va être perçu, etc. Et au final, on a fait un démarrage. Le jour où on a posté notre nouveau menu de janvier, on a été sold out en 4 heures.
Génial.
C'est inespéré. Ouais. C'est inespéré pour 6 mois d'activité, un bouche à oreille qui commence effectivement à bien marcher. Mais enfin voilà, sur les réseaux sociaux, on a 1000 abonnés. On n'est pas, on crève pas non plus les plafonds. Ouais. Donc juste, en fait, on est à chaque fois ébloui de voir que ça marche. Ouais. Et de se dire, mais oui, en fait, ça marche, c'est génial. Et voilà, et je sais qu'au mois de février, là, on sort la carte en fin de semaine, et je sais que je vais avoir la même petite appréhension. Et puis on verra, et puis je te dirai sûrement dans 3 mois que j'étais ravie. Ouais. Mais voilà, il y a toujours cette petite appréhension du renouveau, de se dire, est-ce que les gens seront là? Et oui. Oui, ouais. Les gens sont là.
Et dans les choses que tu as testées, est-ce qu'il y a des choses que tu as testées ou vous l'avez testé mais sans trop y croire et en fait vous avez été hyper agréablement surprise?
Alors, c'est pas testé sans trop y croire, mais typiquement les bûches, on savait pas non plus comment ça allait être reçu. Sergeline avait envie de faire des bûches et moi j'étais totalement pour parce que la saison le permettait, mais c'est vrai que on était en plein mois de décembre et ce qui est génial aussi avec cette idée de plan B, c'est qu'on peut prendre des décisions quand on veut. C'est-à-dire que s'il y a une idée qui nous trotte dans la tête le lundi, on peut très bien se dire on en parle le mardi, on est OK, le mercredi on la sort. Mais du coup, c'est pas réfléchi, donc on n'a pas réfléchi 3 semaines de communication sur le sujet, on s'est pas dit est-ce que c'est le bon moment pour les lancer, comment ça va réagir, est-ce qu'on fait des teasings, machin. Enfin, du coup, au final, l'idée est là et on peut la mettre en pratique. On peut la mettre en pratique très vite, mais bon, on n'a pas réfléchi à tout l'à côté. Ah. Et donc, on s'était dit, bah oui, des bûches, pas de souci. Et puis, on s'est dit, bon, bah voilà, mi-décembre, OK, là, c'est prêt, on les lance, on fait les photos, on les lance. Mais bon, on n'avait pas réfléchi à quoi, comment...
Vous n'aviez pas fait comme les grands pâtissiers. Je me rappelle quand j'avais interviewé Michalak, je l'avais rencontré début juillet et il était en train de shooter les photos de ses bûches de Noël.
Nous, on a fait ça en mois de décembre. Hein. On s'est mis dans l'ambiance Noël au mois de décembre. On s'est dit, bon, OK, on sort nos bûches, on fait les photos des bûches, on les teste, on fait tout en même temps. Sergeline avait fait 3 sortes, on les a testées, on les a photographiées. Enfin, voilà, et on les a lancées, c'était fait. Mais non, pour le coup, on ne s'y est pas du tout pris en avance. Et voilà, on s'est dit, bon, période de Noël, quand même, très très chargé en termes de communication, jeux concours, EO, tout ce que tu veux. Et puis bon, tu sors ça le 15 décembre, il y en a, ça fait déjà un mois et demi qui communiquent sur la menu de Noël. Et tu dis, bon, bah, comment ça va être reçu? Du coup, on s'était aussi limité en termes de stock parce que, encore une fois, Sergeline est seule en cuisine. Donc, faire les brunchs plus assurer les bûches, c'est quand même énormément de taf. Ouais. Donc, on s'était limité en stock de bûches en se disant, on verra. En deux jours, je pense que le stock était vendu avec un post Instagram et un post Facebook. Et on s'est dit, OK, allons-y, faisons-les. Et on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on en refait un petit peu ou pas? On a posé la question à nos abonnés. Ils nous ont dit oui, on a eu plein de messages de gens qui n'avaient pas eu le temps de commander. Donc, on a ressorti un lot de bûches. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de projet qui, on a l'idée un jour, on se dit, on y va et on verra si ça marche. Voilà. Et on a la chance de voir que ça marche. Typiquement, on a fait la même chose là ce mois-ci pour les soldes. C'était le début des soldes, je sais plus trop, la semaine dernière ou il y a deux semaines.
Il y a 10 jours. Ouais, 2 semaines.
Et je m'étais dit, un matin, je me lève en me disant, mais en fait, on a des livres d'occasion, lançons une opération de solde. Ça, en 2 jours, j'avais créé un code promo, on avait 30% sur tous nos livres, et puis on l'a lancé comme ça, puis on a vu si ça marchait. Et en une semaine, ça a marché. Donc voilà, c'est plein de petites choses au final où on se dit, on y va, on verra. De toute façon, on n'a pas. Il faut qu'on teste. On a l'idée, on a le potentiel pour la tester. On la teste. Puis si elle marche, c'est très bien. On sait que l'année prochaine, on pourra refaire des bûches parce qu'on a eu un bon engouement. On sait que les soldes, ça marche bien sur les livres, notamment en ligne. On verra du coup l'année prochaine.
Ouais, génial. Et voilà. Du coup, la livraison, c'est toujours vous, c'est toujours toi et Sergeline qui l'a faite?
Oui, alors on s'est entouré de livreurs supplémentaires parce que le mois de novembre a été très 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 chargé et on a la chance toutes les deux d'avoir des conjoints qui mettent la main à la pâte. Donc que ce soit mon conjoint ou le sien, ils sont là les dimanches pour nous aider à livrer les brunchs et qu'on puisse assurer toutes les commandes qu'on a, et puis c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir jouer sur notre stock et de pouvoir en produire plus quand on voit qu'on a beaucoup de demandes.
Super. Et on leur dit merci du coup, j'imagine.
On leur dit merci tous les week-ends de se lever et de venir nous livrer des brunchs, tout à fait.
D'ailleurs, quand on s'était parlé la dernière fois, tu disais que le rythme était quand même sacrément costaud, que vous aviez plus de week-end et que ça allait, mais que dans la durée, c'est potentiellement quelque chose qui allait être difficile. Comment ça se passe aujourd'hui?
Ça a été l'objet. Quand on s'est revu avec Sergeline, on a fait un gros bilan de nos 6 mois. On a parlé très librement de comment on avait vécu cette période-là, et notamment la période de novembre et décembre qui était très chargée et qui du coup en termes d'organisation était assez dure à gérer. Enfin, on s'est vraiment rendu compte que du coup Sergeline faisait quand même 80% de la prod, ce qui est énorme, surtout quand on ajoute des gourmandises, des bûches, etc. Et du coup, moi, j'ai moins de temps en cuisine, mais du coup, j'ai plus le temps pour faire autre chose, sauf que je ne fais pas autre chose sans Sergeline. Enfin, il y a plein de décisions qu'on prend à deux. Voilà, donc il y avait un assez gros déséquilibre entre le temps disponible et la charge de Sergeline versus la mienne. Et donc quand on a fait notre bilan, c'est des choses qui sont ressorties, et notamment effectivement le fait que on n'avait plus de week-end pendant 6 mois, ce qui fait que on travaillait beaucoup tout le temps, et notamment Sergeline au final avait une journée par semaine et encore de pause, ce qui était pas beaucoup. Et donc ce qui est génial avec ce plan B, c'est qu'on s'est dit mettons une nouvelle organisation en place. Les choses ont fait que depuis qu'on est lancé depuis le mois de juillet, nos brunchs durent 3 semaines, parce qu'il y a toujours un week-end où en mois de septembre je me suis paxée, au mois d'octobre Sergeline avait une prestation pour un mariage, au mois de novembre elle s'est blessée, enfin bref, tous les mois au final on a fermer un week-end de brunch, ce qui fait qu'on n'a jamais fait les brunchs sur 4 semaines, on les faisait sur 3 semaines. D'accord. Donc on s'est dit, pour la nouvelle année là, gardons ce rythme, mais fermons volontairement une semaine tous les mois, qui permet de souffler, qui nous permet aussi de prendre un petit peu de hauteur, de faire le point sur le mois, parce qu'au final, on a passé 6 mois la tête dans le guidon, donc c'était très bien qu'on se voit en janvier et qu'on puisse faire le bilan chiffré et aussi implication émotionnelle, donc c'était très bien, mais on l'a fait au bout de 6 mois. Et donc là, l'idée, c'est aussi qu'on puisse se dégager un peu de temps pour pouvoir le faire plus souvent et qu'on puisse commencer à réfléchir aussi à la suite et quand est-ce qu'on va commencer à rechercher des locaux, etc., à retravailler progressivement le business plan et tout ça. On a besoin de prendre du temps tous les mois pour le faire. Et le switch d'un brunch à l'autre est aussi assez compliqué quand on n'a pas de coupure. Donc, on s'est dit, OK, prenons une semaine de pause entre chaque brunch. Enfin, du coup, c'est un week-end pour nos abonnés. Pour nous, c'est quelques jours dans la semaine où on va pouvoir se permettre de prendre de la hauteur, bien travailler les nouveaux menus, bien les annoncer et anticiper justement toute la partie communication, etc. Pouvoir faire plein de choses en avance pour que les semaines de prod, ce soit des semaines qui soient vraiment juste dédiées à la prod et qu'on ait aussi du temps libre. En plus, Sergeine est maman, donc les mercredis pour elle, c'est hyper important avec son fils. Qu'on puisse chacune avoir ce temps libre. Et ce qui fait que du coup, on se dégage un week-end par mois maintenant. Ouais. Donc, ce qui nous laisse aussi
Le temps de toi aller voir ta famille, tout ça.
Exactement, Serge et Nostie puissent aller voir la scène. Donc oui, c'est des moments qui sont importants. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a la latitude de le faire. Et moi, ce que je trouve génial en tant qu'entrepreneuse, c'est que je peux me laisser cette opportunité-là. Alors après, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui me disent « Ah, mais tu prends des vacances ?»« Ah ouais, d'accord. » Et du coup, ça fait 6 mois que tu as commencé ton activité. Moi, je pensais que tout le monde était au taquet, qu'on comptait pas ses heures. Et en fait, j'ai le fait que ce soit mon entreprise, enfin que ce soit mon entreprise avec Sergeline, mais en tout cas que ce soit notre projet commun, nous laisse la possibilité de le faire comme on veut et nous laisse la possibilité de nous écouter. Et que on a le droit de prendre des vacances. Alors, on le fait en connaissance de cause. On sait très bien que 15 jours, entre Noël et jour de l'an, 15 jours de non-brunch, c'est X euros de chiffre d'affaires qui n'est pas rentré. Mais c'est un choix aussi. C'est que l'équilibre entre notre vie pro et notre vie perso, elle est importante. Sergeline a une vie de famille, elle a un petit garçon. Moi, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de voir ma famille qui n'habite pas forcément ici. Et donc, je suis capable de prendre ces décisions en connaissance de cause et je suis capable de me dire que oui, dans ce projet, générer un max de chiffre d'affaires, bien évidemment que c'est important, mais c'est pas le plus important. Moi, ce que je veux, c'est m'épanouir dans mon job. Et m'épanouir, ça, c'est aussi prendre le temps de faire une pause et prendre le temps de profiter de ma famille et que oui, peut-être ce week-end-là, je bosserai pas. Par contre, on voit pas tous les autres week-ends où je bosse. Ça, c'est pas grave. Mais oui, ce week-end-là, je bosserai pas et peut-être que je ferai pas 80 heures par semaine et ça me va très bien. Parce que 80 heures par semaine, j'ai déjà fait pour des boîtes qui sont pas les miennes. Et je me suis jamais sentie bien. Je me suis toujours sentie, au final, au bout du bout, frustrée parce que j'estimais pas avoir la reconnaissance complète des efforts que j'avais fournis. Et puis, au final, une fois que j'ai quitté la boîte, c'est pas la mienne. Donc, il y a plus rien. Au mieux, je laisse une trace. Au pire, ce que j'ai fait, c'était très sympathique, mais moi, ça m'apporte rien. Donc, je suis contente dans cette nouvelle vie de pouvoir faire ce choix-là. Et oui, de me dire que j'ai le droit de prendre des vacances, on a le droit de ne pas bosser un week-end. Et ça nous regarde, nous, au final, si on bosse, si on ne bosse pas. Ça ne regarde pas les autres. Donc, voilà, il commence à y avoir ce chemin à faire avec l'entourage qui…
Tu le vis comment, ça, d'ailleurs, quand toi, on te dit ça ?
Pour le moment, ça me fait marrer. Pour le moment, ça me fait marrer et pour le moment, j'explique que c'est pour ça que je suis devenue entrepreneuse, c'est pour pouvoir gérer ma vie comme je l'entends. Et si j'ai pas envie de bosser lundi, je bosse pas lundi. Et si j'ai envie de passer ma nuit de mardi à mercredi à bosser sur un truc parce que j'ai une illumination, je le ferai. Et c'est ça aussi qui me frustrait beaucoup, c'est cette idée d'horaire imposé, de devoir être présente de 9h à 18h et des fois bah voilà de pas pouvoir caler un rendez-vous perso de cet agenda de malade parce qu'on voit pas que tu bosses jusque 20h mais il faut absolument que tu sois au bureau à 16h. Moi ça commençait à sérieusement me frustrer. Et là aujourd'hui bah je fais ce que je veux quand je veux. Si j'ai décidé d'aller faire mes courses à 10h du mat, je fais mes courses à 10h du mat, et si j'ai décidé de pas dormir cette nuit, c'est mon problème. Et du coup voilà, les gens qui me disent ça me font pour le moment doucement sourire. On en reparlera pour voir si ça dure. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, ça me fait doucement sourire et moi, je sais pourquoi je le fais. Et au final, ce qui est plus important, c'est ça, c'est que moi, je sais pourquoi je le fais et je sais ce que ça me coûte et c'est ma décision. Si les gens, ça leur pose un problème, grand bien leur faire.
Mais je trouve ça génial ce que tu dis parce que clairement tu vois on en parlait avec Claire Desmarais Poirier et on disait je sais pas si tu vois qui c'est, elle a monté l'Amande Verte d'ailleurs, c'est un salon de thé librairie mais en Bretagne et elle a également une tisannerie. Et Claire, elle dit, ouais, le bonheur, il est dans le chemin, en fait. Et ce qu'elle disait, elle, bon, c'est même plus des idées, c'est vraiment une idéologie sur tout ce qui est éco-responsable. Enfin, ça fait vraiment partie de sa vie, ça coule dans ses veines. Et tu vois, elle racontait que, elle a une petite fille qu'elle a allaitée pendant, très longtemps. Et elle me dit, bah, clairement, j'avais le choix, en fait, de respecter mon idéologie et de continuer à allaiter ma fille. Ou je mettais ma fille à la crèche ou chez une nounou. Enfin, bref, toujours est-il que si elle mettait sa fille chez la nounou ou à la crèche, ça voulait dire qu'elle avait plus de temps pour son business. Donc, il y a eu un moment où ils se sont regardés avec son mari en disant OK, qu'est-ce qu'on fait entre ce que nos valeurs profondes familiales, de ce qu'on veut par rapport à notre vie et notre business. Et elle a fait le choix de ses idéaux, de sa philosophie de vie et c'est ce qu'elle disait. Elle disait ouais, en fait, il faut qu'à la fin de l'histoire, quand on aura atteint nos objectifs, de se dire OK, est-ce que le chemin est aussi beau que l'objectif? Parce que finalement, tu vois, moi, c'est d'ailleurs ce que je raconte souvent. J'ai lu un livre de Thomas Samut que j'ai eu le plaisir et la chance de pouvoir interviewer. Et le livre de Thomas, quand je l'ai lu, ça faisait 2-3 mois que j'étais arrêtée pour mon burn-out. Et en fait, Thomas, il disait, mais en fait, aujourd'hui, on est dans une société où tu ne te réjouis que de l'atteinte de l'objectif et pas du chemin. Et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, tellement. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu ne te réjouis même pas, en fait, quand tu atteins ton objectif, parce que tu as toujours ton boss qui va te rajouter un « c'est bien, tu as atteint », mais il y a toujours un « mais » derrière où tu vois, là, on est en train d'acheter une maison. Et acheter une maison quand tu es au chômage, en bientôt fin de droit, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile avec un mari entrepreneur. Et en fait, à chaque fois que on a une étape, genre la banque qui te dit oui, tu dis ouais, mais après t'as l'espèce de frein qui dit ouais, mais l'assurance nous a pas encore dit oui. Et puis en fait, à chaque fois, tu te dis mais t'anticipes le truc d'après. Et tu vois, on s'est dit, je pense que j'ai fait des gros progrès par rapport à avant, mais parce que tu vois, genre j'avais mon nouveau job avec un nouveau salaire et tout, j'étais là yes, ouais, mais il y a la période d'essai. Et puis après, il y avait toujours un truc. Donc là, je pense qu'on apprend beaucoup plus à célébrer. Mais on se disait quand même, tu vois, quand les petits démons d'avant, ils reviennent quand même vite, parce que et je trouve ça génial, ouais, que tu dises ouais, enfin il y a un moment, ça sert à rien de se faire mal, et même au contraire, vous serez meilleur parce que vous avez pris le temps nécessaire, tu vois, pour prendre du recul. Moi, tu vois, le début janvier, c'était quand même un peu compliqué parce que à la fin de l'année, j'ai plus de chômage et que forcément, tu te dis, bon, bah voilà, et que moi, à date, j'ai un chiffre d'affaires qui est proche de zéro. Et tu te dis, bon, bah, va falloir commencer à monétiser. Et j'ai une copine, ce que je te racontais avant qu'on enregistre, qui m'a dit, je vais pas bien, j'ai besoin de partir en vacances. Bah, OK, on part dans 3 jours en Guadeloupe. C'est une folie, mais en même temps, t'es entrepreneuse, et en fait, tu peux le faire, quoi. Donc, profitons-en, enfin.
Exactement. Et moi, j'ai vraiment fait ce choix de ce changement de vie pour répondre à une passion et pour répondre à une envie vraiment très profonde. Je l'ai pas fait pour gagner beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Il y a une grosse, enfin, il y aura une grosse différence entre le salaire que j'étais capable d'avoir en bossant dans le digital et le salaire que j'aurai demain. Ça, j'en suis complètement consciente. Et j'ai vraiment pas fait ce changement de vie pour gagner plus d'argent. Je l'ai fait parce que j'étais plus alignée avec moi-même et que j'avais cette passion qui était là depuis longtemps, cette envie qui était là depuis longtemps, et il fallait que j'y réponde. Et au final, je l'ai fait aussi parce que j'avais envie d'être indépendante, j'avais envie de faire des choix qui me regardaient moi, d'en assumer les conséquences, mais surtout d'assumer le plaisir de le faire, d'assumer le succès qui va avec, et que ce soit le mien, que ce soit pas celui de quelqu'un d'autre, et de pouvoir le faire comme je l'entendais. Et c'est pour moi, c'est hyper important dans ce projet. Après, chacun monte son projet avec les objectifs qu'il veut. Mais en tout cas, moi, le mien, c'était ça. C'était de vivre à mon rythme, de le faire de la façon dont j'ai envie de le faire. Et si je me casse la gueule, je me casse la gueule. Mais c'est moi. C'est pas mes amis, c'est pas mon entourage, c'est pas ma famille, c'est pas mon boss, c'est moi. Et oui, peut-être que j'écouterai pas tous les conseils qu'on me donnera, mais ça me regarde moi. Et si je me foire, je m'en prendrai à moi-même, mais je le sais. Et quoi qu'en disent les gens, quoi qu'en dise mon entourage, voilà. Et peut-être que je le ferai pas aussi vite que quelqu'un d'autre. Peut-être que un concept similaire sortira de terre dans 6 mois, et que oui, ils se seront peut-être plus défoncés que nous. Mais moi, ce que je recherche avant tout, c'est d'être tranquille et de vivre ça dans le succès et dans la joie, pas de m'éreinter comme une malade, de me forcer à tout prix à faire X euros de chiffre d'affaires, de me forcer à tout prix à gérer tel et tel truc, de le faire de façon stressée. Enfin, j'aurais tout un tas de moments où je serais stressée parce que j'ai fait telle ou telle chose, ou de savoir si ça va marcher ou pas. J'ai pas besoin de me rajouter une surcouche en plus. Après, je sais que je suis capable de travailler des heures et des heures quand je suis passionnée. Je suis capable de ne pas voir le temps passer et je suis capable de m'investir complètement. Mais j'ai pas envie de le faire en étant forcée pour une raison autre que moi-même. J'ai pas envie de le faire parce que le regard des autres me dit qu'il faut le faire comme ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de mener cette vie pro. J'ai déjà mené mes autres vies pro de cette façon, parce que oui, j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui avait besoin que je fasse ça en temps et en heure, et puis j'avais des clients qui avaient aussi besoin de faire que je fasse ça en temps et en heure, et puis il y avait des objectifs, puis il y avait machin, et puis trucs. Donc je me suis déjà démenée pour des choses qui n'étaient pas les miennes, avec plus ou moins de reconnaissance, mais en tout cas, voilà, je l'ai pas fait pour moi. Aujourd'hui, je le fais pour moi, et je le fais de la façon dont j'ai envie de le faire. Et pour moi, c'est hyper important de le faire comme ça. Et c'est pas grave si je vais pas aussi vite, c'est pas grave si j'ai pas le même succès que le nouveau salon de thé qui ouvre. On aura le succès qu'on veut avoir, et on aura la vie qu'on veut avoir. Et le principal pour moi, c'est qu'on soit heureuse, Sergeline et moi, dans ce projet-là, et qu'on soit heureuse dans cette vie entrepreneuriale.
C'est sûr.
C'est hyper important.
Ouais, c'est clair. Comment ils auraient réagi, ton entourage, suite à la diffusion du deuxième épisode ?
Comment ils ont réagi ? Très bonne question, ça fait un moment. J'ai été félicitée du fait de pouvoir m'exprimer, parce que mon entourage sait que je ne suis pas une grande bavarde sur ce genre de sujet. Et j'avoue que déjà le premier, les gens avaient été surpris que je me livre, et les gens avaient appris beaucoup beaucoup de choses. Et j'ai Sergeline aussi qui écoute le podcast à chaque fois qu'il sort. Et à chaque fois on en discute un peu. Et voilà, du coup c'est cool. Moi je suis toujours un peu mal à l'aise, parce que je suis très à l'aise quand on en parle et qu'on fait cette émission ensemble. Et c'est juste après je me dis. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai dit et qui va écouter ça? Et je me dis, c'est toujours un peu mal à l'aise de me dire, ok, j'ai dit ça, très bien. Donc lui, il va l'écouter, mais du coup, je suis toujours, donc je sais que les gens l'écoutent. On n'en parle pas trop parce que ça me met pas hyper à l'aise, mais voilà, je sais qu'il me trouve en tout cas courageuse de m'exprimer.
Ah, c'est top. Et est-ce que tu as des clients, du coup, qui t'ont parlé de ça?
Non, on n'a pas forcément de clients qui nous en ont parlé, non. Après, peut-être qu'ils l'écoutent et qu'ils ne nous le disent pas, mais en tout cas, on n'en a pas parlé.
C'est quoi tes nouvelles peurs ?
Mes nouvelles peurs, ma nouvelle peur, là, c'est de ne pas avoir de vision sur l'ouverture du salon de thé. C'est une peur, c'est une question qui est là dans mon esprit, et puis dans quelques mois, ça deviendra plus une peur, parce que Voilà, concrètement, il s'est passé, on en parlait en antenne tout à l'heure, mais ça va bientôt faire un an que j'ai quitté mon job, que j'ai changé de vie. Donc, ça fait là 7 mois qu'on a lancé le plan B. Mais quand j'ai quitté mon job, on était au début du Covid, j'imaginais pas du tout, enfin, personne, je pense, pouvait imaginer ce que ça allait devenir. Et c'est surtout, moi, j'avais en tête quelque chose d'assez précis, c'est qu'en 2020, on ouvrait le salon de thé, on avait 2020-2021 pour se faire la main, et puis après 2021, ça roulait, et puis ça correspondait bien avec mon chômage, puisque voilà, j'avais 2 ans de chômage, donc 2 ans pour faire mes preuves et 2 ans pour commencer à me dégager un salaire. Bon, ça va faire un an que je suis au chômage, il me reste un an et je vois pas pour le moment, concrètement, je vois pas l'ouverture du salon de thé. Et ne serait-ce que déjà reprendre les visites, on sait qu'il va nous falloir un minimum 3 mois. Si on a de la chance et qu'on trouve un local, il va nous falloir au moins 3 mois pour faire toutes les démarches à la banque, les travaux, etc. Donc, 3 mois, c'est un trimestre. Donc, ça va vite, ça va très vite. Et oui, disons que ma peur, là, en tout cas, ce que je commence à réaliser, c'est de me dire que dans 12 mois, je n'ai plus de chômage et que je ne sais pas si le salon de thé sera monté. Je ne sais pas si on aura développé plus que maintenant la partie livraison à domicile. Parce qu'aujourd'hui, la livraison à domicile, c'est très bien, mais on ne se paye pas. L'argent qu'on accumule nous servira principalement d'apport complémentaire pour le salon de thé, parce qu'il y a aussi toute une dynamique et toute une question financière qui se pose. C'est est-ce que les banques vont accepter demain de financer un projet comme un salon de thé, et si oui, quelles vont être les contraintes, quelles vont être avec quelles nouvelles règles on va jouer.
Les règles du jeu seront pas les mêmes qu'avant Covid, voilà. Forcément.
Exactement. Donc, avant Covid, on te demande entre 20 et 30% de l'apport, ce qui est quand même déjà assez conséquent quand tu es sur des budgets à presque 100 000 euros. Ouais. Demain, si on t'en demande plus, on s'en te demande d'autres garanties. Enfin, bref, pour l'instant, on s'est pas du tout posé la question et on va commencer à se la poser là, mais on veut d'abord, nous, pouvoir revoir notre business plan, refaire le point sur tout ce qu'on avait envie de faire, voir si on s'en est éloigné ou pas. Voilà, pour avoir les reins un peu plus solides. Mais voilà, toutes ces questions-là, elles sont quand même présentes. Ouais. Et je peux pas y répondre aujourd'hui, et c'est voilà, c'est ça qui va m'angoisser un peu. C'est j'ai pas de doute sur le fait qu'on ouvrira, et j'ai un doute sur le fait de quand on ouvrira.
Par rapport au financement, c'est justement Claire dont on parlait tout à l'heure qui me disait que elle, pour leur ferme, je crois qu'ils sont 450 propriétaires, quelque chose comme ça.
Ah ouais.
Ouais. Eux, ils se sont tous les deux lancés en mode, ils avaient jamais fait ça de leur vie. Elle était dans la communication institutionnelle. Lui, il était squatteur. Enfin, tu vois. Donc lui, il a repris ses études pour devenir agriculteur. Mm-hmm. Mais oui, ils ont monté ça vraiment. Bon, je disais, sa vie vraiment, c'est il y a une idéologie très très forte sur la notion de communauté et compagnie. Et du coup, ouais, sa ferme appartient à peut-être 450 ou 400. Enfin, en tout cas, c'est l'idée quoi. C'est,
beaucoup de monde.
Ouais, beaucoup de monde. Mais du coup, potentiellement, enfin, je me dis vu l'engouement que vous avez, potentiellement, si les banques vous prêtent pas, peut-être que sans avoir 400 propriétaires, il y a de plus en plus de projets participatifs, de crowdfunding.
Ouais, c'est plein de choses qu'il faut réfléchir en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, on se pose pas encore trop la question, parce qu'on vit notre succès.
Ouais, c'est pas
très bien,
moment,
mais,
ouais.
Mais ça va être le sujet là des 3 prochains mois. Donc il va falloir effectivement qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on revoie tout ça, qu'on revoie notre conseiller, qu'on comprenne un petit peu le pouls, qu'on voit aussi en termes de local. Est-ce qu'il y a des choses qui se libèrent ou pas? Est-ce que la tendance est à même d'un point de vue des propriétaires? Est-ce que la tendance est à louer un local pour faire de la restauration? Enfin voilà, on va commencer tout doucement à se remettre dans le bain et à voir ce que ça va donner. Mm-hmm. Mais oui, il y a plein de choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Il y a déjà plein de choses qu'il va falloir qu'on réinvente, on le sait.
Ouais.
Donc voilà, on va voir tout ça petit à petit.
C'est Nathalie qui racontait, donc qui a lancé Little Pop. L'été dernier, en fait, elle avait eu le droit à un prêt d'honneur. Donc, elle avait fait tout le dossier, elle avait tout été OK. Sauf qu'en fait, son code APE était un code dans le textile. Et en fait, on lui a dit, elle avait tout qui était OK au moment de virer les fonds. On lui a dit, code textile, en plein Covid, ça, on ne prête pas d'argent. Et en fait, bon, finalement, elle s'était rendue compte que tous ses concurrents avaient un code APE qui était dans le e-commerce. Mmh. Et du coup, elle a changé son code APE. Elle a pu avoir son prêt. Et donc, ouais, s'il y a des petits trucs comme ça où tu te dis sur lesquels tu ne comptes pas, et finalement, ça peut changer. Ça peut tout changer en fait.
Ah ouais, puis c'est des heures de travail que tu mets à la poubelle, ou enfin que tu as deux doigts de mettre à la poubelle pour un code. Donc ouais, c'est pour ça. Puis au-delà de ça, enfin c'est des procédures qui prennent énormément de temps, avec quand même une vie aujourd'hui qui bouge beaucoup, ou en tout cas des décisions qui changent beaucoup le monde. C'est compliqué de pouvoir réagir comme ça rapidement. Donc c'est vrai que pour l'instant, on sait qu'on a ça dans un coin de notre tête. Et voilà, ça va être un peu, pas ouvrir la boîte de Pandore, mais presque, c'est là. Il faut qu'on le fasse. On va le faire parce que dans tous les cas, on veut ouvrir notre salon de thé. Voilà, maintenant, on sait qu'il va falloir qu'on s'arme de beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et qu'on fasse plein de choses.
Ouais. Est-ce que tu as des nouveaux doutes?
Pas spécialement, je te dis. C'est les doutes et les peurs, c'est plutôt sur une idée de quand. Quand est-ce qu'on va le faire? Mais je reste convaincue que notre projet, c'est exactement ça qu'on doit faire. En tout cas, s'il y a bien quelque chose que cette année de 2020 ne m'a pas enlevé, c'est ça. J'ai toujours la certitude que ce qu'on fait, que le projet, que l'idée de ce salon de thé littéraire, c'est vraiment ce qu'on doit faire. Et bon, ça peut paraître un peu bizarre hein, de se dire qu'en Covid, la meilleure idée du monde qu'on a eue, c'est d'ouvrir un salon de thé. Mais moi, je reste persuadée que c'est exactement ce pourquoi on est faite. Et donc, voilà, on l'ouvrira maintenant. Le doute est plutôt quand.
Ouais.
La question est plutôt quand.
Voilà, et c'est marrant parce que tu vois, on en parlait avec Émilie Martinet, qui est donc aussi dans Chemin et qui donc est en train de devenir architecte d'intérieur décoratrice. Et elle me disait, parce que donc elle finit bientôt ses études. Et elle me disait, mais parce que je dis, bon, c'est quand même compliqué en plein Covid. Enfin, c'est quand même pas forcément le budget sur lequel les gens investissent en ce moment, tu vois. Et elle avait un truc en elle et elle me dit non mais en fait je sais que ça va le faire en fait et toutes les personnes que j'ai interviewées qui sont à leur place, qui sont alignées, ouais, t'as une espèce de fougue de dire je sais que ça va le faire, je sais pas forcément comment, quand, mais ça va le faire en fait.
Exactement.
Et quand t'es tellement convaincu, bah finalement c'est un peu la loi de l'attraction, bah t'es tellement convaincu que ça arrive finalement.
Et puis tu mets les moyens que tu veux aussi pour
c'est pas la magie hein.
Ouais. Alors voilà, non, enfin il y a une partie de magie, moi je pense qu'il y a une partie effectivement d'attraction, mais il y a aussi une partie où tu t'en rends pas forcément compte, mais du coup tu vas travailler peut-être deux fois plus pour atteindre cet objectif. C'est juste que pour toi en fait t'es tellement aligné avec ce que tu veux que t'as pas vraiment l'impression d'y passer autant de temps, d'y dépenser autant d'énergie. Mais c'est juste que voilà, quand il n'y a pas de doute, bah c'est hyper confortable de se dire bah oui, peut-être que le chemin va être plus compliqué, mais j'ai pas de doute, je vais y aller. Et les embûches, bah il y en aura de toute façon, quel que soit le projet. Et donc bah on y va quoi, c'est tout. Ouais.
C'est quoi ta nouvelle réjouissance?
Ma nouvelle réjouissance, c'est de me dire que je suis capable de faire des choses qui sont loin de ma zone de confort, qui sont loin de ce pourquoi j'ai fait des études, et de me dire que entre guillemets, je vaux quelque chose à côté de cette vie que je m'étais construite, parce que je suis repartie de zéro. Je me lance quand même dans un projet où il faut faire des gâteaux pour lesquels j'ai pas de diplôme, où il faut vendre des livres pour lesquels j'ai pas de diplôme parce que je suis pas libraire non plus. Donc je vis quand même sur deux passions, complètement autodidacte. Hein. Après, bon, j'ai quand même de grosses connaissances, compétences en organisation et tout, donc je sais mener un projet. Ça, je sais le faire. Et là, je suis totalement dans ma zone de confort. Mais il y a quand même plein de choses à côté où je me sens pas toujours légitime. Parce que, mais après bon, c'est plus un problème de confiance en moi, mais parce que j'ai pas les diplômes, parce que j'ai pas la reconnaissance officielle du fait que je sois capable de faire ça, et notamment sur la partie livre, il y a toute une partie de conseil, de conseiller des livres à des gens, etc., qui fait que bah je me sens pas toujours légitime, mais je me rends compte que je suis capable de le faire. Je me rends compte que je peux le faire, que ça marche, que les gens me demandent, que apparemment je suis de bons conseils, ou en tout cas dans la pâtisserie, que ce que je fais dans ma cuisine, bah ça marche aussi à grande échelle. Et ouais, de me découvrir des nouvelles compétences, c'est chouette. C'est chouette parce que je sais que Alors, c'est peut-être, je sais plus si c'est dans le premier, ça doit être dans le deuxième ou le deuxième, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait grand-chose. J'étais un peu loin de tout. Bon, bah là, je me rends compte qu'au final, si, je sais faire des choses quand même, j'apprends des choses et que je suis capable. Et ça, c'est très kiffant.
Ouais, c'est top. De quoi tu es la plus heureuse de ces 3 derniers mois?
De notre succès. De notre succès, du fait que. Alors, du succès du projet, du succès de ma relation aussi avec Sergeline, parce que pour moi, c'est hyper important d'être alignée, de communiquer, surtout dans des moments chiants, surtout quand on n'est pas d'accord. Et j'ai beaucoup, beaucoup de chance d'avoir trouvé une personne qui, alors, sur lesquelles, des fois, on réagit un peu de la même manière et des fois, pas du tout. Et j'ai beaucoup de chance de trouver quelqu'un qui met pas les choses sous le tapis, qui fuit pas les conversations, qui fuit pas les sujets, et avec qui je peux avoir des conversations difficiles, mais avec qui le lien n'est pas rompu. C'est hyper, hyper, hyper important. Et enfin, ce projet, pour moi, c'est plus engageant qu'un mariage. Enfin, on va s'engager sur quelque chose qui est énorme. On va vivre des moments très intenses et j'ai besoin de me dire que la personne qui partage ça avec moi, je peux m'engueuler avec elle aujourd'hui et on peut ne pas être d'accord, mais on peut quand même continuer à vivre, on peut quand même continuer à travailler et surtout on va reparler du sujet. Et ça, c'est hyper important. Et je célèbre ça aussi parce que bah, sur ces 3 mois, il y a eu des moments de joie, il y a eu des moments de galère. Mais on est capable de parler de tout ça et d'avancer. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes.
Ouais. C'était quoi là où les plus grandes difficultés du coup de ces 3 derniers mois?
La gestion, c'est la gestion de la charge. La gestion de la charge, le travailler ensemble, parce que bah, au mois de novembre et décembre, on a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Moi, je ne suis pas dans le domaine, donc je ne suis pas pro, donc je vais beaucoup moins vite que Sergeline. Et puis surtout, il y a plein de choses que je ne peux pas encore faire, hein,
Ouais.
même si je commence à apprendre que je suis capable de faire certaines choses, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et du coup, c'était ça, c'était de gérer ce décalage entre la grosse charge de Sergeline d'un point de vue prod. Moi, peu de prod, mais du coup beaucoup plus de temps pour réfléchir à des choses plus stratégiques de communication et tout, mais de pas pouvoir les faire avec Sergeline, enfin de devoir attendre qu'elle soit disponible et elle n'était pas disponible. Donc c'est vraiment plus s'organiser pour pouvoir se dégager du temps, pour avoir ces moments où on peut parler stratégie, parler communication, parler de ce qu'on veut faire, et puis avoir ces moments de prod et travailler soit ensemble, soit chacune de notre côté. Mais voilà, c'était ça qui était vraiment difficile. Et c'est ce sur quoi on travaille là à partir de ce mois-ci, parce que c'est ce qui est remonté dans nos bilans. C'est effectivement de se dire il faut qu'on arrive à rééquilibrer mieux les charges, quitte à ce que moi je prenne plus de choses, mais des petits trucs comme, enfin des trucs très bêtes, tu vois, mais comme aller faire les courses. Faire des petites choses qui sont à ma portée dans ce qu'on fait sur les brunchs et qui permet à Sergine de se concentrer sur vraiment les choses les plus importantes. Enfin voilà, de vraiment rééquilibrer mieux les dosages pour que ce soit plus simple. Mais au final, enfin la vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est un constant essayer de constamment trouver l'équilibre sur la charge, sur la vie pro perso, sur plein de choses. Au final, c'est une question d'équilibrisme et c'est ce qu'on fait et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une orga, on la teste, on fait le bilan, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on modifie aussi en cours de route. Enfin voilà, ça restera, je pense, toujours un gros challenge de pouvoir jouer avec cette charge et cette organisation.
Parce qu'il faut être, il faut, c'est un job d'équilibre, mais avec un tapis roulant, quoi.
Exactement. Et puis bon, avec voilà, des assiettes dans les mains, et il ne faut pas trop te casser la gueule, quoi. Ou en tout cas, il faut qu'il y ait un minimum de casse. Donc voilà, ouais, faut être souple, faut être smooth.
C'est ça. On en a déjà parlé un petit peu, mais comment ton entourage, du coup, il vit bah, ce succès, toute cette période?
Ils le vivent très bien. Je pense que mes parents sont très rassurés de voir que ça marche, notamment ma maman qui, je pense, ne doutait pas de notre capacité à le faire. Mais voilà, quand je lui ai annoncé que je m'étais fait un 10 ans de vie professionnelle dans le digital très bien payé pour passer à une vie que je ne connaissais pas, pas bien payée, elle m'a dit « Oui, d'accord, mais tu es sûre ?» Donc voilà, je pense que ça rassure en tout cas ma maman, mes parents. Ils sont ravis de dire à tout le monde que leur fille est devenue entrepreneuse et que ça marche. Je pense qu'ils sont aussi bien évidemment rassurés pour moi de voir que je suis en joie et que j'aime ce que je fais. Et puis mon entourage, mes amis, mes proches le vivent aussi très très bien, sont hyper contents pour moi de voir que ça fonctionne, sont très 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 souples aussi avec le fait que je ne sois pas toujours disponible les week-ends. Enfin, il y a plein de choses qu'ils organisent pour que je sois disponible. Et ça, c'est génial, tu vois. Des anniversaires le week-end, on va les décaler à 13h pour que j'ai le temps de finir les livraisons, ou on va le faire à un moment où je suis là. Et voilà, de voir que même mon entourage s'organise pour que je sois disponible, c'est génial. Parce qu'on aurait très bien pu me dire, tu fais chier avec tes conneries.
En même temps, t'es aidée avec le couvre-feu, du coup.
Voilà, oui, tu es aidée avec le couvre-feu, ouais.
En fait, t'as un accord avec le gouvernement pour faire en sorte que ça se passe bien, en fait. Tu peux nous le dire?
C'est vrai que du coup, les apéros se sont transformés en repas du midi, ce qui est très pratique pour moi. Non, mais c'est vrai que j'ai quand même un entourage très, 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 très impliqué, très disponible. Et puis, juste mon conjoint qui fait des livraisons quand même avec moi le week-end, alors qu'il a sa semaine de plus dans les pattes. Je me sens très, très chanceuse d'avoir ces gens autour de moi qui font plus que me soutenir, qui participent aussi. Et c'est... je pense que je fais ce projet dans les meilleures conditions possibles. Vraiment. J'imaginais pas ce que ce serait. J'imaginais que ça allait, j'allais kiffer. J'allais peut-être vivre des moments de galère, mais j'allais kiffer. Mais j'imaginais pas que mon entourage serait autant présent pour moi. Et ça fait partie aussi des très belles surprises de me dire que, voilà, je peux compter sur les gens que j'aime et c'est hyper cool.
Alors, on dit que, on récolte ce qu'on sème.
Oui, du coup, j'ai dû semer beaucoup d'amour parce que j'en récolte beaucoup.
C'est quoi pour toi la réussite ?
La réussite, c'est de vivre, c'est d'être heureuse dans ce que je fais. D'être heureuse et de le faire comme je l'entends. On en parlait il y a quelques temps dans le podcast, mais oui, pour moi, ce qui est important, c'est d'être, la réussite, c'est quand je serai en accord avec moi-même, que je serai heureuse de faire ce que je fais comme je le fais, et que je vivrai ma vie pro avec tellement de passion que ce sera pas de la vie pro, ce sera juste du kiff. Et aujourd'hui, ce que je vis, c'est déjà juste du kiff. Donc voilà, je suis déjà dans le succès, même si aujourd'hui j'ai pas un chiffre d'affaires qui me permet de me payer, mais en tout cas pour moi c'est déjà un succès cette aventure.
Est-ce qu'il y a un moment dans les 3 derniers mois où tu t'es dit pourquoi pas moi?
Alors oui, en tout cas ce projet fait vivre de nouvelles envies, plus autour des livres, et notamment le fait de pouvoir travailler avec des auteurs locaux, de pouvoir promouvoir la lecture et tout. Enfin, là, je me rends compte que je touche vraiment quelque chose de très, très, très passionnel chez moi. Et je me dis, pourquoi pas soit développer une autre branche, soit ce sera un projet pour dans quelques années. Mais il y a quelque chose autour de ça qui me fait vraiment, vraiment vibrer. Et après, je retombe sur mes premiers amours de la petite fille en moi qui voulait absolument travailler dans une maison d'édition ou écrire un bouquin. Donc je sais que voilà, je touche quelque chose qui est très, très profondément enfoui et qui est là depuis de nombreuses années, qui me fait vibrer depuis de nombreuses années. Mais oui, ce projet qu'on a monté grâce à un ami qui nous a suggéré l'idée, eh ben ça fait naître en moi quelque chose et je me dis que voilà, c'est un objectif, hein, c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser avec les authentiques, de travailler qu'avec des auteurs locaux, ou en tout cas de faire quelque chose autour des auteurs locaux quand on aura le salon de thé. Soit ce sera un projet pour d'ici quelques années.
Ouais. Mais oui. Et quand tu dis écrit, pourquoi pas toi?
Voilà.
Quand tu dis écrire un bouquin, c'est écrire quel type de bouquin, ton rêve de petite fille?
Ah, mon rêve de petite fille, c'est d'écrire de la fantasy. J'ai toujours été très amoureuse de ces histoires épiques et oui, Voilà, mon rêve de petite fille me dit, allez, vas-y, passe le cap. Je suis clairement pas prête. Je ne sais même pas si ça serait un jour. Mais voilà, ça fait partie des choses quand j'étais petite où je me disais que tout était possible, que je pourrais.
Après, une fois encore, on dit qu'on est la même personne, sauf qu'on se met des freins que quand on était petit.
Exactement. Moi, je suis que oui, je sais que je me mets énormément de freins et je sais que le principal problème du fait que je ne passe pas le cap, c'est moi. Hein. C'est pas les autres ou c'est pas l'imagination, c'est juste moi. Mais ça, c'est encore un sujet un peu touchy, un peu sensible. Et peut-être que j'y viendrai un jour, mais j'y viendrai par d'autres portes. On
ouais.
verra.
On en parle. Voilà, ça sera l'épisode qui va être diffusé ce jeudi avec Valérie Pastre, qui est comédienne. Et elle dit qu'en fait, alors son conseil, c'est de dire que la solution est en nous et qu'en fait, à partir du moment où on est prêt, bah ça roule parce qu'en fait, le truc est déjà en nous, mais qu'il faut attendre le moment où on est vraiment prêt pour que ça puisse vraiment bien se passer.
Ouais, bah, je suis complètement d'accord et je pense que je suis pas prête. Alors après, on verra si je serai prête dans ma vie ou pas. Je sais pas, mais voilà, je sais que j'ai encore un gros syndrome de l'imposteur sur ce sujet-là. Mais bon, j'ai tellement de joie à faire les authentiques que c'est pas très grave. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas grave.
Non, ouais, chaque chose en son temps.
Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Il m'a fallu 5 ans pour oser sauter le pas des authentiques. Peut-être qu'il m'en faudra 10 ou 15 pour oser un jour sauter le pas de l'écriture. On verra.
On s'en reparle dans 10-15 ans.
C'est ça. On fera un pourquoi pas moi 10 ans après.
C'est ça. C'est quoi tes prochains défis du coup? Bon, j'ai une petite idée sur un, mais je te pose la question.
Prochain défi, ça va être de concrétiser le plan A, de faire sortir le salon de thé de terre. Enfin, tout tourne autour de ça, hein, tout tourne autour du local et de pouvoir en vivre, bien évidemment. Et de pouvoir sortir tout ça.
Ouais. Est-ce que tu te rappelles?
Je sais pas si c'était ça l'idée que tu avais en tête.
Oui, si. Ouais. Non, rien à voir. Pas du tout.
Non, peut-être que j'ai loupé quelque chose.
Ouais. Non, forcément. De toute façon, en même temps, vu le contexte actuel, j'ai envie de dire même mondial et votre business, forcément, c'est.
C'est le défi.
C'est le défi
de 2021.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois?
Alors, je m'en souviens pas. Et en plus, comme je n'aime pas me réécouter,
tu as pas réécouté
ce que j'ai dit.
Alors, tu as donné le conseil que j'aurais à donner, c'est allez-y, écoutez votre petite voix. Et si elle vous dit que c'est maintenant, il faut vraiment y aller. Et quelle que soit votre situation professionnelle, quelle que soit votre situation perso.
Eh ben, je t'ai inspirée.
C'est merveilleux ce que j'ai dit. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner?
Alors oui, j'aurais un nouveau conseil. Le conseil que je donnerais, c'est prenez le temps d'expérimenter votre concept, votre idée, votre projet. Ça paraît fou comme ça, mais en vrai, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver, de se donner la latitude de faire un POC, de faire un MVP.
Je te coupe, POC pour Proof of Concept, c'est un peu un terme de l'univers du logiciel dans lequel on travaille avec Aline. Donc, moi, je comprends, mais je me suis dit, pour les néophytes de l'univers du logiciel.
Tu fais bien.
Ouais.
Mais voilà, donnez-vous la possibilité de créer votre concept. Alors peut-être pas le plan A, mais peut-être le plan B ou le plan C, ou en tout cas quelque chose de plus petit, quelque chose que vous allez être capable de lancer avec moins de budget et sur un temps donné pour juste tester, pour voir si ça fonctionne, peut-être dans d'autres conditions. Alors ça, peut-être c'est peut-être difficile à imaginer. Après, tout dépend de l'activité. Bon, nous, on a réussi à le faire alors qu'on voulait ouvrir un lieu physique. Donc, j'imagine qu'il y a plein de choses à faire. Ça demande sûrement un peu d'imagination, mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est tellement enrichissant, en fait, d'avoir ce moment, cette période où on peut valider ses hypothèses, tester des choses, se laisser le temps de se tromper, se laisser le temps d'expérimenter. Au final, je trouve ça hyper important. Et pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver. Et surtout dans ce contexte un petit peu compliqué de Covid, si quelqu'un veut se lancer à l'opportunité de tester, même je sais que même avec un lieu physique, on peut avoir des bails qui permettent des baux, Un bail, qui permet d'avoir un bail temporaire, en tout cas, d'avoir 6 mois ou autre, si vraiment il faut un local, enfin, de se donner cette possibilité d'investir un petit peu de son capital de départ pour pouvoir tester. C'est tellement bénéfique pour sa confiance en soi, c'est tellement bénéfique pour valider des hypothèses, pour passer au concret, que voilà, ça sera mon conseil de cette émission, de ce podcast-là.
Ouais, ne pas être trop perfectionniste et y aller, quoi.
Ouais. Et puis, dans tous les cas, je pense que, enfin, on a tous une vision très idéale de ce qu'on veut faire. Mais cette vision-là, on l'a travaillée, mûrie dans notre tête depuis de nombreux mois. Et concrètement, pour la mise en place, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et d'énergie. Et au final, on n'a pas besoin que ce soit parfait pour que ce soit lancé. Et en vrai, ce sera jamais parfait. Il y aura toujours des choses à faire. Et donc, le fait de se limiter à quelque chose de plus petit et avec juste l'essence même du projet, ça permet déjà de se nourrir, ça permet de se donner de l'énergie, de se donner de l'espoir, de la confiance, et c'est chouette. Et en vrai, on n'a vraiment pas besoin que ce soit parfait. Vraiment pas.
À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Je pense que je vais remercier un peu comme d'habitude mon associé de me suivre dans ce projet. Parce que sans elle, ce serait pas. Sans elle, il n'y en aurait pas, de toute façon. Parce que je m'imagine pas le faire avec quelqu'un d'autre. Voilà, même si demain on s'entend plus, il n'y aura plus d'authentique parce que je le ferai pas sans elle. Remercier mon conjoint qui s'investit énormément dans ce projet avec moi, aussi bien de son temps personnel pour faire les livraisons avec moi que d'accepter quand même ce changement de vie qui est énorme. Remercier mes parents d'être soulagés que ça fonctionne et en tout cas de pas trop surtout je sais que ils ont certainement très peur pour moi, mais de ne pas me communiquer leur peur, c'est hyper important, et de remercier mon entourage qui est là présent, qui fait en sorte que je puisse être là aux anniversaires et qui m'encourage et qui me montre plein d'opportunités. Voilà,
c'est top.
Je voudrais remercier tout ce monde là.
Merci beaucoup Aline, on se retrouve dans 3 mois, on verra
avec
bien
grand plaisir.
Tout ce qui se passe d'ici là.
Et oui, on fera le bilan.
Ouais. Et en attendant, bon, si vous êtes à Lille, vous avez beaucoup de chance. Donc, profitez-en. Les authentiques sont à Lille.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci Charlotte. À très bientôt.
À très vite.
J'espère que notre 3e rendez-vous vous aura plu. Comme d'habitude, retrouvez tous les liens pour suivre mes invités sur le blog pourquoipasmoi.co et sur Instagram avec le nom de compte pourquoipasmoi.co. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?